Sud Radio, c'est ça la France. Midi, midi 30, Nathalie Schrein-Guirma.
Bonjour à tous, bienvenue dans C'est ça la France, l'émission du Produire en France. J'espère que vous passez un bon dimanche. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à la musique, car samedi prochain, c'est le week-end de la musique avec les Victoires sur France 2, les Victoires de la musique. Donc, c'est l'occasion de faire un état des lieux de la production musicale française, qui se porte d'ailleurs plutôt bien. Nous nous intéresserons également au marché du vinyle. Est-ce un marché d'avenir, un épiphénomène? On en parle tout à l'heure, mais tout de suite, direction le SNEP, le Syndicat National de l'Édition Phonographique.
Sud Radio, c'est ça la France.
Bonjour Alexandre Lache.
Bonjour Nathalie, merci pour votre invitation.
Merci à vous d'être là. Vous êtes directeur général du SNEP, donc le Syndicat National de l'Édition Phonographique. Expliquez-nous déjà ce qu'est ce syndicat de la filière du disque en France, sa mission, qu'est-ce qu'il représente?
Alors c'est une association qui regroupe des entreprises de production musicale française, des entreprises indépendantes, des grandes entreprises, tous les labels en fait qui font la fierté de la production musicale en France.
Et tous ces labels sont réunis sous le SNEP, ce syndicat national de l'édition phonographique. Si on devait faire un petit état du marché de la production française, alors j'ai trouvé un chiffre, moi, en fouinant comme ça sur Internet, qu'en 2017, le chiffre d'affaires de la production française, donc l'ensemble des labels français, représentait 583 millions d'euros. Alors comment tout ça se vend-il en fonction des différents supports?
Absolument. Alors c'est le chiffre pour 2017. On dévoilera dans quelques semaines le chiffre de 2018. Et ce chiffre, il était en augmentation de 4%, ce qui était un événement important.
C'est bien ça.
Absolument, parce que pendant 10 à 15 ans, on a subi une crise du disque qui a fait reculer le chiffre d'affaires. On est reparti de l'avant depuis l'année dernière et c'est vraiment une bonne nouvelle. Alors comment ça se décompose? On voit aujourd'hui, vous avez deux types d'exploitations. Vous avez les exploitations traditionnelles, CD, vinyle, et puis des exploitations numériques, c'est le téléchargement, mais aujourd'hui c'est surtout le streaming, les plateformes de
musique en ligne. Qui est intégré dans vos chiffres.
Absolument, c'est intégré dans nos chiffres et aujourd'hui la répartition de ce chiffre d'affaires, il est à environ 50-50. Et pour 2018, pour la première fois, les exploitations numériques devraient prendre le pas sur les exploitations physiques.
Et comment vous expliquez ce regain d'intérêt pour la production française musicale?
Alors, le regain d'intérêt, disons que le public n'a jamais manqué d'intérêt pour la production musicale française. Mais on peut quand même saluer une performance assez incroyable pour 2018, puisque effectivement, la production musicale française est particulièrement à l'honneur cette année. C'est une année exceptionnelle, avec parmi les 20 meilleures ventes d'albums, 19 artistes francophones.
Alors, qu'est-ce qui marche aujourd'hui? Dites-nous, quelques noms d'artistes.
Vous savez, l'album qui a le mieux fonctionné cette année, l'année dernière, c'est pas une surprise.
C'est Johnny, non? Hallyday.
Ouais. Absolument.
Alors ça, c'est incroyable, hein, parce que je crois que dès le premier jour, 300 000 albums vendus. 1 million en une semaine.
C'est ça, 1 500 000. Là, ouais. on est à triple diamant sur cet album.
L'album posthume. Ouais.
C'est totalement hors catégorie, un succès massif, évidemment.
Est-ce qu'il y a eu d'autres artistes qui sont sortis du lot également?
Bien sûr. Alors, pour compléter le podium, on a Maître Gims, avec un album qui lui-même est disque de diamant. Et puis son petit frère sur la troisième marche, Dadju, avec un album Gentleman 2.0 qui lui aussi est disque de diamant.
Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui encore, on sent bien l'importance des musiques urbaines, hein, notamment le rap qui est encore très présent dans les top 20, dans le top des classements?
Alors absolument, il y a un phénomène autour de la musique urbaine, c'est vrai en particulier sur les plateformes de musique en ligne. Ce sont des plateformes qui attirent d'abord un public jeune qui écoute de la musique urbaine et donc ce genre aujourd'hui il est dominant sur les plateformes. Mais pour autant, vous avez une vraie diversité dans ce qu'écoutent les Français et on le voit dans nos classements, vous n'avez pas que du rap, vous n'avez pas que de la musique urbaine, vous avez également des artistes plus installés, des artistes confirmés. Je pense que vous aimez bien Marc Lavoine par exemple,
oh, j'adore.
Titre de l'émission. Et bien, on le retrouve effectivement dans les meilleures ventes aux côtés de plein d'artistes installés comme Mylène Farmer, Maître Gims lui-même aujourd'hui, on peut se demander d'ailleurs, est-ce que c'est encore de la musique urbaine?
Est-ce que c'est de la, oui, ou
est-ce
bien
que c'est la nouvelle variété?
La nouvelle variété,
exactement.
C'est ça. Et vous avez raison de le rappeler, hein, C'est ça la France, c'est une chanson de Marc Lavoine, c'est vrai.
Exactement.
Alors justement, il y a ces distinctions hein, que l'on remet hein, chaque année aux artistes. À partir de combien de disques vendus, on devient disque d'or, disque de platine, disque diamant?
Alors le disque de diamant, c'est 500 000. Le disque de platine, c'est 100 000 exemplaires et le disque d'or, c'est 50 000.
Mais il a fallu revoir ces chiffres à la baisse, non ? Il y a encore quelques années, c'était pas un million à peu près de disques vendus pour avoir le disque de platine ou...
C'est vrai, ça a suivi l'évolution des ventes, naturelle. L'évolution du marché. Mais là, on repart dans l'autre sens. C'est-à-dire que ça devient à nouveau plus compliqué d'obtenir un disque d'or. Et on change les règles de certification pour refléter là aussi les nouveaux usages, et en particulier la prise en compte des écoutes sur les plateformes de musique en ligne.
Est-ce qu'il y a eu des changements ? Est-ce qu'on peut parler de changements culturels dans nos façons de consommer la musique ces dernières années par rapport aux années précédentes ? Vous le disiez tout à l'heure, bon, les musiques urbaines sont là. Peut-être qu'il y a de la nouvelle variété, mais dans les années 80, dans les années 70, c'était vraiment la variété pure qui était essentiellement en tête du podium. Est-ce qu'on note comme ça est-ce que vous faites des études de tendance pour essayer de voir un petit peu comment tout ça évolue ?
Bien sûr, on regarde. C'est tellement compliqué de classer les artistes dans des genres. C'est ce qu'on disait. Hein. Alors, la variété est toujours un genre très fort. On parlait de la musique urbaine. Les deux s'inspirent l'un de l'autre. Donc, les frontières sont de plus en plus poreuses. Et on constate effectivement une évolution vers la prise en compte de sonorités plus urbaines dans l'ensemble des genres, y compris dans l'électro.
Et au niveau des supports, là aussi, vous essayez d'anticiper un peu l'avenir. Est-ce que le CD va disparaître ? Bon, vous n'êtes pas Madame Irma, hein, mais je veux dire, effectivement, le vinyle revient un petit peu. Mais bon, est-ce que c'est selon vous aussi un épiphénomène ou bien vraiment ça s'installe ? Comment tout ça va évoluer ? J'imagine que là aussi, vous faites des études au niveau du SNEP pour essayer d'anticiper tout ça ?
Absolument. Alors... aujourd'hui, ce qu'on constate quand même, c'est que le moteur de l'industrie musicale, ce sont les plateformes de musique en ligne. Vous savez, ce sont des plateformes, donc vous pouvez accéder à toute la musique, plus de 50 millions de titres, partout, tout le temps, sur votre téléphone, sur votre tablette, ou sur votre enceinte connectée, sur votre ordinateur, bien sûr. Et ça, c'est vraiment la nouvelle manière de consommer la musique. Mais pour autant, le support physique n'est pas mort. Le CD décline, certes, mais il continue à être très important et il constitue une part substantielle des revenus de l'industrie. Et puis, vous avez évoqué le vinyle, c'est plus qu'un phénomène. Aujourd'hui, le vinyle représente un album vendu sur quatre.
C'est impressionnant, c'est incroyable, hein, ça.
Absolument, et c'est un phénomène qui ne se dément pas depuis des années, c'est en constante augmentation.
Mais on peut dire finalement, peu importe le support, hein. Plus important, c'est qu'on écoute la musique française, la production française.
Absolument, pourvu que la musique soit bonne.
Pourvu que la musique soit bonne, c'est ça.
Et effectivement. Ce qui est formidable aussi à propos de la musique française, c'est qu'elle fonctionne en France, elle fonctionne aussi à l'étranger. Ça, c'est important. Ça,
alors, elle s'exporte bien, la musique française
elle
à l'étranger ?
Elle s'exporte formidablement bien. On a des exemples. Hein. Alors, vous avez David Guetta, dont le succès ne se dément pas depuis des années, et dont le dernier album a encore été un succès planétaire, avec plus d'un million d'albums vendus à travers le monde. Mais vous avez également des artistes plus récents, comme Jane, une artiste pop qui est double disque de platine à l'export et qui a été sélectionnée pour le festival Coachella aux États-Unis, qui est un festival très prestigieux. Vous avez encore une artiste comme Aya Nakamura, qui est une artiste de musique urbaine, qui en est à son deuxième album, donc c'est une jeune artiste également, et qui, elle, a été numéro un aux Pays-Bas, une première depuis Edith Piaf pour une artiste francophone.
Donc il y a une touche française, il y a un style français qui plaît à
Absolument.
L'étranger. Merci beaucoup Alexandre Lage, je rappelle que vous êtes directeur général du SNEP, le syndicat national de l'édition phonographique. Alors, on se quitte un court instant et juste après on se retrouve pour évoquer le vinyle, car contre toute attente, on le disait à l'instant, le vinyle résiste très bien, il est même sur le point de dépasser le CD. À tout de suite.
Sud Radio, c'est ça la France. Midi, midi 30, Nathalie Schrengirma.
Bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans C'est ça la France, consacré aujourd'hui à la musique française. Et oui, je vous rappelle que samedi prochain, ce sont les victoires de la musique sur France 2. Et on s'intéresse maintenant à un support qui résiste très bien, c'est le vinyle.
Sud Radio, c'est ça la France.
Bonjour Antoine Olivier.
Bonjour, bonjour.
Bonjour, alors vous êtes à la tête de M comme musique, une entreprise qui est située à Fougères, en Bretagne.
Et non, pas du tout, à Orgères, en Bretagne.
Ah pardon, Orgères, c'est pas, Orgères. Ça termine pareil.
Ça se termine pareil, effectivement.
Donc vous êtes les artisans du vinyle, vous fabriquez des vinyles, vous imprimez vos galettes hein, juste à côté, donc vous me le disiez, de Rennes. C'est un vrai phénomène, hein, le vinyle. On l'évoquait, alors je suis en studio avec Alexandre Lage, directeur général du SNEP, syndicat national de l'édition phonographique. Et il nous rappelait à l'instant qu'effectivement, le vinyle est très présent dans les rayons. Le vinyle résiste très bien. Et comment vous l'expliquez, vous, ça ? Vous l'attribuez à quoi ? Au son, à la pochette, à des nostalgiques ?
Ah oui, je pense que c'est un tout. On est dans On est baigné dans un milieu qui est sans cesse de plus en plus dématérialisé. Et puis la nuit des temps, l'homme avec un grand H aime bien aussi collectionner les objets. Donc là, on est sur un retour à l'objet, quelque chose de très sincère, de très simple. Et du coup, avec un objet qui a énormément d'espace graphique et avec une qualité sonore qui est liée à l'analogique et qui est plus appréciée, avec une chaleur qui est plus appréciée par les mélomanes.
Et un son incomparable avec ce petit
Exactement.
Crépitement du son. C'est vrai que quand on se balade effectivement dans les grandes entreprises où on peut acheter des disques, hein, les grands groupes notamment, on voit dans le rayonnage que les vinyles prennent vraiment autant de place que ceux des CD. Hein. C'est étonnant.
Bah bien sûr, et c'est, on est sur un marché hein, qui est au moins en croissance de 30% par an. Et il y a aussi tout le côté indépendant. Où les personnes vont vendre, acheter des vinyles sur des plateformes en ligne hein, qui existent. Donc on a une partie du marché qui est en magasin chez les grands groupes et une autre partie qui est plutôt chez les disquaires et sur les ventes liées à Internet.
Alors vous faites partie de ces passionnés. Vous avez décidé de recréer une filière qui avait complètement disparu, de la remettre en route. Il a fallu rechercher les machines. Enfin, ça a été compliqué, j'imagine.
Oui, c'était un peu dur, surtout qu'on n'avait pas trop d'expérience ni en entrepreneuriat ni en technique. Donc nous, on a commencé en 2014, on a fabriqué notre propre machine de production, puisque à l'époque, on n'en trouvait même pas d'occasion. Maintenant, depuis, il y a des fabricants qui se sont mis à en refaire.
Vous l'avez fabriqué vous-même ? Allez, c'est une machine faite maison ?
Nous-mêmes.
Oh, mais dis donc.
notre première machine était effectivement faite maison. Aujourd'hui, on s'est complètement réindustrialisé. En plus de cette machine, on dispose des mêmes équipements que peut-être chez Sony au Japon. Comme le marché est en croissance, on a de plus en plus de commandes, il fallait qu'on franchisse un plafond de verre. Et puis la solution, même si on reste une petite équipe, qu'on reste artisan, la solution a été d'industrialiser nos process.
Donc vous êtes même reconverti hein, professionnellement pour ce vinyle. J'ai lu que vous avez travaillé dans l'univers du dépannage automobile avec le cofondateur de l'entreprise.
Exactement.
Donc rien à voir.
C'est une longue histoire. Moi, j'avais plutôt des expériences commerciales et je travaillais un petit peu quand même dans le secteur musical. Mon associé, lui, était mécanicien en sport automobile, GP2, Formule 1, GP3, etc. Et lui, en reconversion, et moi qui travaillais dans cette fameuse boîte automobile, puisque dans le spectacle, à l'époque, je ne gagnais pas ma vie, on s'est rencontrés et on s'est trouvés sur l'entrepreneuriat. On avait tous les deux envie d'entreprendre et c'est comme ça qu'est né M-Com Music.
Et là, d'où vous avez choisi les vinyles ?
Et on a choisi les vinyles. On a choisi les vinyles grâce à un label et disquaire qui s'appelle Beast Records à Rennes, qui lui n'avait jamais arrêté le vinyle. Il nous a fait découvrir ce support parce que nous, on a une trentaine d'années. C'était à notre adolescence, il n'y avait plus trop de vinyle. On a très peu connu ça finalement, mis à part via nos parents. Du coup, ce disquaire nous a donné envie d'aimer ce support et puis on s'est dit allons les fabriquer.
Alors justement, en parlant de fabrication, comment fabrique-t-on un vinyle ? Quelles sont les grandes étapes des fabrications ?
Je vais devoir vous donner des secrets industriels, du coup. Du coup, il y a trois étapes principales pour fabriquer un disque vinyle. À partir de votre enregistrement que vous avez effectué en studio, on va réaliser ce qu'on appelle un master cut. En fait, c'est un master physique du disque vinyle. C'est le premier disque qui est gravé. Ça va être le seul, d'ailleurs, qui va être gravé grâce à un procédé qui ressemble à celui d'un électrophone. Ensuite, à partir de ce master physique, on va développer des moules qui vont être les négatifs de ce qui a été gravé précédemment. Et à partir de ces négatifs, à partir de ces moules, on va pouvoir ce qu'on appelle presser les disques, c'est-à-dire les dupliquer dans notre outil industriel.
Il y a un moule par album ?
Il y a un moule par album, parce que sur le moule, il y a les sillons, donc la musique de chaque album.
Donc vous avez une cave énorme, un hangar énorme pour ranger tout ça.
Je vous invite à visiter.
Vous pressez combien de disques chaque année ?
Alors, nous, on est en moyenne 150% de croissance. Donc en 2017, on a fabriqué entre 25 et 30 000. L'année dernière, on a fabriqué un peu plus de 100 000 vinyles. Et cette année, on vise bien un peu plus de 200 000 vinyles.
Ouais, c'est bien, 200 000 vinyles. Alors, c'est vrai qu'il faut quand même faire face à la digitalisation de la musique. Alors, comment on fait pour innover tout en restant dans le vinyle, mais bon, en montrant quand même qu'on a conscience de ça. Est-ce que c'est possible ?
Bien sûr, c'est possible. Alors moi, je pense que dans l'économie actuelle, il faut réussir à relier le digital et le physique. Et par exemple, ce qui se fait beaucoup dans les disques vinyles, c'est que nous, on va imprimer des cartes de téléchargement qui font la taille d'une carte de crédit un petit peu. Dessus, vous allez y retrouver une adresse URL, une adresse web et un code particulier, un code unique. Comme ça, l'acheteur de ce vinyle va pouvoir aller sur Internet, rentrer son code et télécharger l'album en digital.
Donc, vous voulez dire que quand on achète chez vous donc un disque vinyle, on a les deux. On a l'objet physique, on a le petit crépitement du son si on veut le rechercher, ou sinon, on a aussi si on veut écouter la musique en faisant son sport, on a la possibilité d'avoir la partie digitalisée à télécharger.
Exactement, parce qu'il ne faut pas se couper non plus de la modernité et restons dans notre monde et joignons le digital au physique.
Merci beaucoup Antoine Olivier pour cet éclairage. Ça fait plaisir de mettre en avant justement ces jeunes qui supportent la musique française et notamment le vinyle. Et d'ailleurs, je parle sous le contrôle d'Alexandre Lache. Ça fait du bien d'avoir ces artisans de la musique qui sont là, ces jeunes entrepreneurs.
Absolument. Moi, j'ai pris des notes. Là, je découvre des choses et j'ai très envie d'aller voir comment ça se passe effectivement chez Antoine Olivier.
Voilà. Donc on connaît.
Bien, ce sera avec plaisir.
Ben voilà. Effectivement, on connaît tous MPO qui est dans la Mayenne, mais il y a aussi à Rennes M comme musique, voilà, qui se développe de plus en plus. Et ça fait du bien. Merci beaucoup et bonne journée Antoine Olivier.
Bonne journée à vous. Au revoir.
Au revoir.
Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut le French Trotter.
Et oui, il y a une tradition dans cette émission, à chaque fin d'émission, on se balade avec Thibaut, notre French Trotter. Mais là, on ne se balade pas dans l'univers de la musique. Là, vous avez choisi les animaux domestiques, rien à voir.
On quitte totalement le sujet de la musique. Ouais.
Expliquez-nous.
Le mois dernier, c'est tenu à Paris, le Paris Animal Show, porte de Versailles. C'est le grand salon dédié à nos amis à quatre pattes. Alors j'ai pu y voir une expo féline avec, paraît-il, plus de 1000 chats, je ne sais pas compter. Il y avait aussi des éducateurs et des vétérinaires qui prodiguaient des conseils pour bien s'occuper de son chien ou de son cochon d'Inde. Mais je me suis occupé plus précisément des innovations dans le domaine animal. Et Nathalie, savez-vous par exemple que la cosmétologie se met désormais au service des animaux ?
Eh ben non. Expliquez-moi comment.
Ben voilà, comme ils le veulent bien, nos chiens et nos chats ont droit, pour leur bien-être, à un sérum dermo-cosmétique. Et j'ai rencontré Madame Rodriguez, c'est elle qui a créé ce produit qui s'appelle Look Care. Écoutez, elle nous explique tout ça.
Eh bien écoutez, moi je suis cosmétologue, je travaille à l'échelle internationale pour des grandes maisons dans le domaine humain. Et donc j'ai déjà une première expérience réussie dans le développement de produits vétérinaires. Et donc, par le plus grand des hasards, j'ai rencontré une de mes amies qui s'appelle Frédérique, qui est une toiletteuse expérimentée de plus de 30 ans. Et j'ai découvert son activité en lui rendant visite dans son magasin. Et quand j'ai vu son travail, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce métier? Quelle pénibilité dans le travail! Et donc, elle avait beaucoup de difficultés. À ça m'est venue une idée en disant, eh bien écoute, j'ai déjà une première expérience réussie dans le domaine vétérinaire, je vais essayer de concevoir le produit qui va te faciliter la vie. Et donc Look Care est né. Look Care est un sérum haut de gamme, c'est un bisérum, dans la mesure où il répond à toutes les problématiques de toilettage, le démêlage, retirer les nœuds, apaiser. Et la seconde propriété de ce produit, c'est toute la bobologie, c'est-à-dire action positive pour réhydrater, apaiser les démangeaisons, et sur la sublimation du pelage naturel de l'animal. Donc ça fonctionne sur les chiens, sur les chats et sur les chevaux.
Les chevaux aussi. Et je crois savoir que c'est un produit entièrement naturel, ça c'est important.
Oui, 100% d'ingrédients naturels. Donc en ça, c'est la performance du végétal au service de l'univers du toilettage et le bien-être des animaux.
Donc on protège à la fois l'animal, mais également le toiletteur.
Tout à fait. C'est le respect de l'animal et le respect du toiletteur.
Produit fabriqué en France ?
Produit fabriqué sous ma responsabilité, donc création 100% française.
Eh ben dis donc. Mais c'est intéressant de voir comment on est un tout nouveau produit, hein, Thibaut.
Oui.
Est-ce que vous avez une autre innovation à nous proposer ?
Allez, après les produits cosmétiques, eh bien les accessoires déco pour animaux. En baladant dans les allées du salon, je suis tombé sur des objets en forme de lettres de l'alphabet et on m'a dit que c'était destiné aux chats. Alors j'ai demandé plus d'explications à Mathilde, qui tenait le stand Oh My Cat, une entreprise basée à Laval, en Pays de Loire.
Alors, ce sont des griffoirs pour chats. En bois de peuplier et carton recyclé, et ils ont l'avantage d'être rechargeables. Donc quand le carton est usé, on ne change que le carton. Donc en effet, ce sont des lettres qui existent au format simple épaisseur et XL et qui s'intègrent parfaitement dans votre déco.
Ce qui est sympa, voilà, c'est avant tout, c'est un élément décoratif, c'est un objet décoratif.
Oui, tout à fait. Et l'autre avantage, c'est que c'est fabriqué en France, avec des matériaux de qualité, sans colle, sans produits chimiques, et vraiment dans un souci d'esthétique.
Donc dans une démarche éco-responsable.
Exactement.
Vous avez un chat, vous ?
Oui, tout à fait. J'ai un chat, Nouméa, qui teste tous mes produits avant de les faire tester à d'autres chats et ensuite pouvoir les commercialiser.
Alors que dit Nouméa ?
Nouméa, elle adore. Et c'est un peu la star de Oh My Cat.
Est-ce qu'elle a un objet de prédilection ?
Alors, Nouméa adore le Esperluette qui est juste ici.
Vous pouvez nous le décrire ?
Alors, c'est le e-commercial Esperluette. Et elle adore aussi le griffoir personnalisé, d'ailleurs à son nom, le Nouméa. Et aussi nos nouveautés, le berlingot, qui est notre nouveauté dans le textile pouf et coussin, qui ont l'avantage d'être déhoussable et lavable.
L'entreprise existe depuis combien de temps ?
Alors, ça fera 2 ans tout juste demain.
Demain, bah, bon anniversaire.
Voilà, alors je précise juste que quand vous commandez du mobilier design ou des accessoires Oh My Cat, eh ben, le chat n'est pas fourni avec.
Oh non ! Non mais c'est intéressant, il faut quand même rappeler qu'en France, il y a près de 63 millions d'animaux domestiques.
À peu près, ouais,
voilà.
Ouais.
Donc c'est bien de mettre en avant toutes ces innovations.
Les animaux domestiques.
Et c'est un salon qui cartonne, hein.
qui rassemble beaucoup
de monde chaque année. Merci beaucoup Thibaut pour vos découvertes. Merci encore à Alexandre Lache d'avoir été notre invité pour nous parler justement de cette musique française, de cette production française qui se porte bien. On attend les chiffres 2018, hein. Plus que quelques mois à tenir.
J'en reviendrai si vous m'invitez.
Avec plaisir. Et merci à nos auditeurs. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure.